Je vous invite à la prière avant d'écouter les textes bibliques et la prédication. Seigneur, nous voici devant toi pour recevoir ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Permets que dans ces témoignages lus dans la Bible, nous puissions chacun découvrir une parole de toi pour nous. Envoie sur nous tous ton Esprit Saint, afin qu'à l'occasion de ce culte, nous recevions une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance et un amour vrai qui anime notre cœur, nos paroles et nos actes. Et nous écoutons le premier texte, le psaume 13. Seigneur, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? Jusqu'à quand devrais-je me faire du souci et me ronger de chagrin tout le jour? Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage? Seigneur mon Dieu, regarde et réponds-moi. Rends-moi un peu de force, sinon mes yeux se fermeront pour le sommeil de la mort. Sinon aussi mon ennemi se vantera d'avoir le dessus et mes adversaires se féliciteront de m'avoir fait céder. Moi j'ai compté sur ta bonté. Je veux me féliciter de ton secours. Seigneur, je veux chanter en ton honneur pour tout ce que tu as fait en ma faveur. Et nous poursuivons les lectures avec les textes de 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4, et Éphésiens 6, verset 18.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu compatissant, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
Nous écoutons le texte sur lequel va porter la prédication dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 9 à 18.
Se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et elle pleura des pleurs. Elle fit un vœu en disant : Éternel, Sabaoth, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai ni bu vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même.
Osons-nous porter une plainte auprès de Dieu. Dans notre monde d'aujourd'hui, les plaintes sont souvent perçues comme des récriminations continuelles. Il est toujours en train de se plaindre, avec un sentiment d'agacement de celui qui parle. Trop de plaintes dites pour des choses insignifiantes par rapport aux situations dramatiques de tant de personnes dans le monde diminue la valeur d'une vraie plainte. De plus, nous nous sentons souvent incapables et impuissants à soulager celui qui souffre ou à répondre à son attente d'être pris en compte dans ce qu'il exprime de sa souffrance. Notre monde moderne tente à évacuer la plainte, à faire comme si nous voulions qu'elle nous soit extérieure, et surtout qu'elle ne nous atteigne pas. Cependant, des plaintes non entendues ou non exprimées peuvent complètement détruire et conduire au suicide et à la mort. Alors je vous repose ma question du départ. Dans la prière, osons-nous porter une plainte auprès de Dieu ? Dieu entend nos prières, il entend nos plaintes. Et dans le texte biblique, les plaintes sont fréquentes. Elkana vient au sanctuaire de Silo, sanctuaire important par la présence de l'Arche d'Alliance, avec ses deux épouses, Pénina et Anne, pour adorer l'Éternel et lui offrir un sacrifice de partage entre Dieu et l'homme, où une partie de la viande est consommée par les prêtres et ceux qui offrent. Pénina a des enfants, mais Anne, la femme aimée, est stérile. Et cette situation de stérilité est source de difficultés et de souffrances pour Anne. Alors Anne, elle souffre non seulement de la stérilité, mais aussi de l'attitude de Pénina qui ne se gêne pas pour bien lui faire sentir régulièrement, fréquemment, et surtout à cette occasion où ils viennent à Silo, la différence essentielle entre la fécondité et la stérilité. Dans ces temps-là, la fécondité et la stérilité étaient considérées comme venant de Dieu. Les connaissances médicales n'étaient pas celles d'aujourd'hui. Enfanter, c'était important dans la suite des générations pour la transmission du nom et du patrimoine. Alors Elkana essaye de réconforter Anne de son mieux, mais d'une part, il ne peut rien contre sa stérilité, et d'autre part, ses mots ne sont pas assez forts pour effacer l'amertume, ce sentiment durable de tristesse lié à une humiliation et à une injustice. Alors Anne ne reste pas repliée sur elle-même. Elle se déplace. Elle se met en mouvement pour se rendre au sanctuaire, pour s'adresser directement au Seigneur. Seule Anne, parmi toutes les autres femmes stériles de l'Ancien Testament, s'adresse personnellement et directement à Dieu dans cette situation. Elle implore elle-même et pour elle-même. Et sa prière a lieu au moment de sa plus grande détresse. Elle ne dispose d'aucun autre moyen, d'aucune autre ressource. Elle n'a que cette prière de plainte à adresser à Dieu pour retrouver sa plénitude de femme et goût à la vie. Dès lors, qui mieux que Dieu lui-même peut intervenir pour donner un enfant à une femme stérile? Lui seul est capable de l'entendre et de lui répondre en grâce. La plainte réunie à la prière est un cri adressé à Dieu, un appel au Dieu de compassion. Dans l'Ancien Testament, la plainte est une partie essentielle de l'événement entre Dieu et l'homme. L'appel à Dieu dans la détresse accompagne toute l'histoire d'Israël. Des plaintes brèves nous sont transmises dans des textes narratifs en tant que composante de l'événement raconté. Et dans ces événements, l'homme attend de Dieu d'être entendu et de recevoir un secours. D'ailleurs, dans le langage usuel, on entend parfois des personnes s'exclamer « Qu'ai-je fait au bon Dieu pour… » C'est une plainte où apparaît simultanément la possibilité que le malheur soit le fait de Dieu. C'est la traduction de l'incompréhension de la situation dont on ne se sent pas responsable, mais c'est aussi un appel vers Dieu. « Je n'ai pas mérité cela, Seigneur. » Viens à mon secours. Le texte biblique comporte des portes individuelles, comme celle d'Abraham devant la promesse de Dieu qui tarde à se réaliser. Vous pourrez lire cela en Genèse, au chapitre 14, les versets 2 et 3. Mais aussi de nombreuses plaintes du peuple, à commencer par la plainte que suscite la servitude en Égypte, en Exode 2, versets 23 et 25 à 25. Alors Anne prie pour elle-même, et dans ses mots murmurés, on n'entend pas sa voix, elle se dit en vérité, elle s'ouvre à Dieu, elle lui fait confiance et se met en position de recevoir. Mais sa plainte, sa prière est non seulement une plainte, mais aussi elle est assortie d'une demande. Sa prière est quelque chose de l'ordre de l'intime. Elle se met dans une relation toute personnelle avec Dieu. Et cette intimité dans la relation à Dieu est aussi préconisée en Matthieu chapitre 6, verset 5. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Un autre élément de ce texte, c'est que Anne, elle prie longuement sous le regard de Dieu. Et c'est dans ce temps donné à Dieu, dans la confiance, qu'elle se dit en vérité dans ce qu'elle est. Il faut du temps, un long temps, pour être vraiment en confiance. Et c'est aussi dans ce même temps qu'elle s'abandonne à l'action intime. Et dès lors, elle passe d'un plan très centré sur soi-même, très personnel, à un plan de relation où, décentré d'elle-même, c'est Dieu qui importe. Et dans cette durée, progressivement, sa douleur s'estompe. Son cœur se purifie Sa prière agit en elle par l'action du Seigneur et elle retrouve une paix intérieure. Et à partir de là, seulement à partir de là, en s'oubliant soi-même, en lâchant prise par rapport à notre vie, on devient réceptif, attentif. Le regard change. L'événement est ressenti d'une toute autre manière et la souffrance devient infiniment moindre. On est alors dans une paix toute intérieure et je dirais presque complètement en dehors de ce qui nous a conduit à cette prière. Le verset 11 est le seul verset qui nous fait vraiment entrer dans l'intimité de la prière d'Anne. Je vous relis ce verset. Elle fit un vœu en disant « Éternel Sabaoth, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » La grâce d'avoir un enfant devrait avoir pour effet d'annuler complètement sa souffrance. Mais Anne s'engage de manière particulière. Elle fait un vœu. Et dans le contexte biblique, le vœu a une grande importance. C'est un engagement très fort. Et il est réglementé par des prescriptions données et explicites. Seulement voilà, il y a bien plus que la grâce de l'enfant à venir dans ce texte. En effet, Anne ne demande pas seulement l'enfant pour elle-même. Elle s'efface complètement dans la perspective de l'avenir. La première condition de sa prière est liée au présent de ce qu'elle vit, sa profonde affliction et une grande insistance pour que le Seigneur porte son regard sur elle. Les deuxième et troisième conditions sont liées à la notion de mémoire et plus explicitement à la mémoire de Dieu. Anne utilise deux verbes opposés quant à leur sens. Se souvenir et oublier, dont l'un semble se référer au passé, si tu te souviens de moi, et dont l'autre semble porter sur le futur. Et si tu ne m'oublies pas ? Anne intègre cette double hypothèse dans son vécu présent et donne ainsi plus de force et de certitude quant à la réalité de la mémoire du Seigneur. La dernière condition qui exprime la demande d'Anne est totalement tournée vers l'avenir. Et si la condition n'est pas encore réalisée, Anne ne doute absolument pas qu'elle soit réalisable. Dans sa promesse, elle se dessaisit de ce qu'elle demande, de ce qui est le plus important pour elle, de l'enfant à naître. Quoi de plus important pour une femme que ses enfants ? Demandez à une maman. Mais voilà, elle le donne à Dieu. Elle le donne de son plein gré, car son essentiel, c'est Dieu. Et elle exprime un projet de vie pour son fils à naître, Samuel, et pour Dieu. Alors Anne, dans l'assurance de la grâce reçue de Dieu, cette grâce qui la comble, cette grâce est manifeste aux yeux de tous dans son comportement et sur son visage, où toute trace de souffrance n'est plus visible. Et le premier signe manifeste de cette grâce reçue est sa réponse toute en douceur face aux propos d'Élie. Elle ne se sent pas agressée par l'erreur de jugement d'Élie à son égard. D'autant que ce dernier, en tant que sacrificateur, avait probablement à cœur que le sanctuaire de Dieu ne soit pas un lieu profané, mais reste un lieu de culte. Élie saisit instantanément son erreur d'appréciation. Il lui donne une bénédiction. Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Dans ce texte, on voit que donc la prière, cette prière d'âme, cette prière de plainte et de demande, est une prière agissante qui ne reste pas sans effet sur la personne qui prie en étant persuadée de la réponse de Dieu. Et le Nouveau Testament ne nous dit pas autre chose. En Marc, au chapitre 11, verset 24, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ou encore en Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans les psaumes, les auteurs ont exprimé des plaintes, parfois violentes, même à l'encontre du Seigneur devant son silence ou son abandon apparent. Et même là, au cœur de leurs plaintes, ils ne lâchent pas Dieu. Ils s'appuient sur leur foi et disent avec tout autant de force la plainte et la louange. Et la plainte et la louange, ces deux modalités peuvent exister dans un même psaume. Dans le psaume 13, qui a été lu tout à l'heure, le psalmiste dit non seulement sa souffrance, mais il dit aussi le temps trop long de sa détresse. Il n'en peut plus. Jusqu'à quand, Seigneur ? Et pourtant, il veut chanter pour son Dieu et dire sa louange. Westermann, un exégète allemand, dit « La louange de Dieu donne corps à la joie d'exister. La plainte donne corps à la détresse. Comme le langage de la joie, et celui du langage de la souffrance, louange et plainte sont ensemble l'expression de l'existence humaine devant Dieu. Alors aujourd'hui, où le problème de la stérilité semble moindre en raison des méthodes et des avancées médicales, peut-être peut-on entendre dans ce terme de stérilité non pas uniquement l'empêchement de donner naissance à un enfant, mais aussi tous les empêchements à donner la vie, tout ce qui vient bloquer nos existences, nos rancœurs, nos amertumes, nos divisions, et peut-être aussi nos doutes ou la faiblesse de notre foi, et tout ce qui ne produit rien de bon. Alors cette prière d'âme pourra peut-être devenir la nôtre, en demandant avec confiance à Dieu de nous guérir de nos stérilités, de notre péché, et de lui remettre le fruit que nous récolterons de sa grande tendresse et de sa miséricorde. Cette prière d'âme, dans sa forme, elle se met à l'écart pour prier, elle prie dans le temple, d'une prière individuelle, silencieuse, inaudible même pour un prêtre, prière fervente en pleine confiance, de tout l'être avec sa peine, ses pleurs, sa demande, prière longue, prière secrète qui ne s'adresse qu'à Dieu seul, comporte des éléments de l'enseignement ultérieur de Jésus sur la prière. Et Jésus lui-même, dans le jardin des Oliviers, lors de sa mort, vit des heures de solitude et d'angoisse. Les évangélistes nous rapportent les dernières paroles de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est achevé. Ces paroles disent tout autant la plainte que la confiance et l'espérance. Tout remettre entre les mains de Dieu. La plainte a donc toute sa place dans l'expression de la prière, comme la joie, la tristesse, la louange et l'adoration. C'est une couleur parmi d'autres. Sans elle, c'est un aspect important de notre relation à Dieu qui n'est pas exprimé. La prière qui exprime la plainte regarde vers l'avenir, vers la vie. Elle s'adresse à notre Dieu de compassion, d'espérance et de miséricorde. Et nous prenons maintenant